Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Alors, on célèbre le printemps, c'est aujourd'hui et c'est un régal. Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Milioni, bonjour à tous les trois. J'annonce trois films, mais la semaine dernière, nous n'avons pu n'en traiter que deux, donc je reste prudent et commençons tout de suite par Dans la peau de Blanche Welbeck. Alors, nous sommes dans le décor paradisiaque de la Guadeloupe, où Blanche Gardin préside le jury d'un concours de sosie. Non pas Claude François ni Johnny Hallyday, comme à l'habitude, mais Michel Welbeck. Alors, Guillaume Niclou avait déjà tourné L'enlèvement de Michel Welbeck en 2014, et puis Thalasso avec Welbeck toujours et Gérard Depardieu. Le pitch est improbable, c'est un joyeux bazar, on sourit plus qu'on rit. Blanche Gardin est toujours parfaite. Je ne suis pas sûr que Welbeck devrait poursuivre au cinéma, mais on écoute la bande-annonce.
Eh hey Michel, viens nous rejoindre, elle est bonne. Allez mon Billy. Oh, c'est une star.
Michel ?
Je suis mort.
Non, 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 vous n'êtes pas mort.
Ouais, on va remettre tout ça en place, ouais, avec un petit punch.
Arrêtez de donner des interviews. Vous êtes un écrivain fabuleux, écrivez des livres et fermez vos questions. Ouais, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que je pense moi-même.
Vous savez que j'ai un faible pour Blanche Gardin. Alors, oui, Dominique Borde.
Oui, oui. Voilà, maintenant on balade l'écrivain en Guadeloupe. Welbeck est en déplacement, Gnome a l'air abruti et lunaire. Il plaît parce que, au fil des années, l'écrivain du siècle, pour certains, pas pour moi, mais enfin pour certains, est devenu un personnage. Moi, j'attends le dessin animé. Ça va sans doute arriver bientôt.
Et la poupée.
La poupée, exactement, où on pourra piquer des épingles dans l'air. Voilà, alors il est accompagné de Blanche Gardin, qui est à la fois l'infirmière déguisée en attaché de presse. Autrement, il est toujours à côté de la plaque, il a l'air d'un zombie en voyage organisé, mais il est la raison d'être de ce film absurde et pas très souvent drôle. Le seul bon moment, et encore, c'est le défilé des sosies qui, naturellement, ne ressemble pas du tout à Welbeck, puisqu'il est inimitable, c'est bien connu. Voilà, je reste très sceptique devant ce film. Ça peut me coûter de l'argent, il y a des films qui restent en panne, et on donne de l'argent pour un film comme ça, parce qu'il y a un personnage qui est devenu people, comme on dit maintenant. Bon. Et
alors,
voilà.
Alors on va aller vite, parce qu'après on va parler d'un chef-d'œuvre.
Voilà. voilà, c'est facile, c'est absurde, c'est un peu idiot, le spectacle vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Moi j'ai pensé aussi à ce que Depardieu avait fait avec Umami, où on baladait Depardieu au Japon de la même façon, on baladait un personnage qui avait l'air de s'emmerder, qui était là pour meubler. Quoi. C'est un peu le même principe, une sorte de guignol triste, quand vous balade, moi je préfère guignol dans ce cas-là.
Voilà. Oui. Marie-Noël.
Eh bien, pour ma part, j'ai trouvé la chose assez divertissante et plutôt bien travaillée.
Ah oui ?
Plutôt bien travaillée. Il y a un vrai sens du burlesque. Parce que Niclou met des personnages publics dans des clichés sociologiques en cours. Et j'allais dire, c'est un film... dans les conditions du burlesque, comme on dit, dans les conditions du direct.
Mmh. Oui, il y a beaucoup d'impro, on sent. Hein.
Il y a beaucoup d'impro, mais c'est surtout qu'il y a un fond sociologique et d'actualité. Mais si, il y a plein de thèmes qui sont abordés, mais oui. Avec une désinvolture extrême. C'est pas lui, c'est pas Welbeck. Là, c'est Niclou. Non, c'est Niclou qui est qui traite ça avec une désinvolture intéressante. Et par exemple, mais c'est bien écrit. Mais tous les clichés y sont. On commence par le féminisme et le viol avec Gaspard Noé. Avec ensuite, évidemment, comme on est en. Tout de suite, le racisme, avec l'apparition de Françoise Lebrun et de son neveu, qui est un grand noir.
Jean-Pascal Zadi,
Donc tout ça commence à se mélanger sérieusement. Ensuite, on se retrouve en Guadeloupe. Et donc là. Il y a toute la question du colonialisme, de l'esclavagisme, qui est traitée comme ça, avec, une désinvolture très plaisante, mais qui, en même temps, est consciente et écrite.
Oui, enfin, il n'y a pas l'intelligence de l'insolence, quand même.
Bien sûr que si.
Ah, vous l'avez senti comme ça ?
toute la question, par exemple, du climat, de la climatisation et de l'acclimatation, elle revient dans la Limoux, qui est une impressionnante Limoux à l'américaine, très longue, très luxueuse, etc., avec le chauffeur antillais, très drôle, qui trouve, à qui on, auprès de qui on se plaint, Houellebecq et Blanche Gardin notamment, et aussi le comparse de Houellebecq, qui est juif et mafieux, qui est quand même un personnage très drôle aussi. Et donc ils se plaignent que la climatisation ne marche pas, et le chauffeur impavide file la métaphore, si on peut dire, parce que non, c'est pas une punition, mais c'est que la clim a pris des vacances, elle y a droit aussi. Et puis après tout, vous êtes dans un pays chaud. Et puis si vous aviez, donc il file la métaphore. Et puis depuis le temps, vous nous avez opprimés pendant des années d'esclavagisme, vous pouvez bien supporter une petite, etc. Mais tout ça revient dans les scènes. C'est très écrit.
Très fatigué.
Non, pleine forme. Et puis, donc, tout ça est très écrit et très drôle. Et alors, on en arrive à l'esclavagisme, etc. Et à ce moment-là, le juif mafieux proteste en disant, ben nous, on a bien passé 400 ans d'esclavage sous les pharaons, etc. Donc, tous ces thèmes qui sont vraiment dans l'air du temps et constamment traités avec le plus grand sérieux sont ici bousculés, rendus comiques, mais d'une manière astucieuse et bien écrite. Plus le tandem, alors après je passe la parole à Bernard, le tandem Houellebecq complètement avachi, mutique, absent, etc., has-been, et Blanche Gardin, elle, très
pleine d'énergie,
exaltée, d'énergie parfois hallucinogène, donc qui va jusqu'à l'exaltation, mais en même temps très nature, très franche, qui prend tout ça très frontalement. Je trouve ça imaginatif et franchement divertissant.
Bon,
voilà.
Oui, moi je suis un petit peu entre mes deux camarades parce que il y a une constante audace. Parce que vous avez à la fois une absurdité, qui est du début à la fin, une absurdité vivace et un anticonformisme pugnace.
Oui.
Parce que quand même, la question posée à Michel Houellebecq sur la femme noire, et il répond par un long, long silence qui gêne tout le monde, ou le réquisitoire, justement, dans la limousine, où le chauffeur reproche à ses passagers leur passé d'esclavagiste.
Alors en leur disant, d'accord, vous n'êtes pas responsable personnellement.
Mais c'est vos ancêtres. Et ça va quand même assez loin dans un temps de conformisme assez couard, et ça fait renaître un certain espoir, je dirais. Par ailleurs, certains dialogues ont du maintien, notamment lorsque Blanche Gardin évoque, souvenez-vous, l'amour sans déclin des chiens par rapport à celui des êtres humains. Et puis, il y a quand même plusieurs épisodes qui n'engendrent pas la mélancolie. Je suis d'accord avec Marie-Noël lorsqu'on évoque la généalogie qui unirait Françoise Lebrun à Jean-Pascal Zadi, alors que tout le monde dit « Oh, mais il y a quand même un problème de taille !» alors que, évidemment, la question n'est pas là. Ou on peut également parler de l'extravagant concours de sosie. Cela dit, ce film ne peut pas être sorti de la trilogie auquel il appartient, à savoir L'Enlèvement de Michel Houellebecq et Talosso, parce qu'il possède la même patte. Il représente aussi un hommage à Dans la peau de John Malkovich, ne serait-ce que dans son titre, mais il n'en possède pas, hélas, la subtilité d'écriture, parce que le scénario a beau faire preuve d'extravagance, il n'en souffre pas moins d'une regrettable inconsistance et de quelques incohérences. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, l'intrigue, selon moi, échoue à s'imposer, car elle est aussi étriquée qu'inachevée. Et puis, le folklore autour des stupéfiants, Christophe, avec ses hallucinations et ses hébétudes, se révèle sans ambition et pesant, comme à l'habitude. Est-ce que c'est un parti pris ou une gaucherie du réalisateur Guillaume Nicloux? Son spectacle a souvent rendez-vous avec la gratuité et le mauvais goût. Et alors, on a l'impression que son discours en creux contre l'exploitation de la population locale au nom d'un racisme odieux n'est en fait qu'un paravent, un alibi frileux, parce que le metteur en scène a un penchant appuyé pour les sujets audacieux et les écarts poisseux. Donc en vérité, c'est comme une sorte d'excuse. L'épilogue, enfin, en compagnie du jumeau, d'un ex-chef d'État à l'orée de l'oubli, constitue certes un clin d'œil choisi au premier épisode de la trilogie, mais n'en reste pas moins approximatif, voire démuni. Je dirais pour conclure que le film affiche à dessein une addition de conflits et de déclins. Oui, grâce à Michel Houellebecq, on découvre ici les tensions du domaine de la chute.
Alors, nous passons à Scandaleusement Vôtre, de Théa Charock, avec Olivia Colman, toujours exquise et sobritiche. C'est un bonheur. C'est follement et joyeusement grossier, ça fait un bien fou. Nous sommes à Littlehampton, sur la côte sud, entre Southampton et Brighton. Nous sommes en 1920, et on peut parler de grenouilles du bénitier ?
Oui, oui. Voilà. Ou de punaise de sacristie.
Comme ou de punaise de sacristie. Alors, on écoute.
Chère Edith, sale putain à fesses de singe, tu es vraiment une foutue dépravée et tu es aussi une salope triste.
Au fond, je crois que ce n'est que de la jalousie.
Je pense que nous savons qui c'est.
Je vais viser ta paire de couilles.
Je suis innocente. Je crois que nous avons peut-être accusé une innocente.
Une femme agent de police. Regardez, un cochon volant.
En prison, Rose ne devrait pas avoir de mal à se faire des camarades. En prison. Oh, pas des meurtriers ou des violeurs. Je pensais plutôt à des ivrognes ou des déviants, par exemple.
Hé hey ! Salveillons pas fait face de chouette de menteuse à la con !
Pourquoi j'écrirais ce que je peux dire en face ? Je pourrais dire que tu ressembles à cette putain de reine Victoria qui se serait fourré une putain de poignée d'ortie au fond de sa putain de chatte, par exemple. Tu sens le foutre et la merde et les gâteaux que tu fais ont l'air tout droit sortis du trou du cul d'un mouton.
C'est mieux, ça.
J'ai un plan.
Qu'en penserait votre couillon de mari?
Mon mari est plus en vie, alors il pense plus grand-chose.
Je t'aime bien, Rose.
Je la déteste.
Je vais la perdre. On ne va pas rester les bras croisés.
J'en ai reçu une, moi aussi.
Tout le monde finira par savoir.
Comme je vous l'ai dit, c'est joyeusement grossier. Moi, ça m'a fait un bien fou.
Ah bon,
Dominique.
Oh, bah, c'est une farce très manichéenne, tout de même, en forme de comédie de mœurs. Hein. Un petit village, une brave femme religieuse, punaise de sacristie, comme on dit, et donneuse de leçons, qui vit avec son vieux père. Et en face, une jeune femme libre qui fait scandale par ses mœurs et son attitude provocante. Alors, et au milieu, des lettres anonymes, obscènes et agressives.
Un corbeau.
Voilà, un corbeau. Mais c'est pas du tout celui de Clouseau.
Hein. Non.
Et voilà. Alors, qui croyez-vous comment deviner le coupable? On vous laisse deviner, en effet. Ça paraît assez évident, mais on met 1h30, 1h40 à le dénoncer. Entre la bonne dame et la mauvaise créature condamnée par tout le monde, le choix
parce que, se fait comme dans tous les bons polars anglais, tout le monde est suspect. Hein.
Tout le monde est suspect. Et
on a envie d'accuser chacun.
Mm. Oui.
Et ça, c'est très réussi, je trouve.
Oui, je ne sais pas si le suspense tient longtemps, tout de même. Enfin bon, j'ai pas trouvé.
Jusqu'au bout.
J'étais plutôt déçu, et j'ai pensé au fleuron de la comédie anglaise, comme Tueur de Dames ou Noblesse Oblige. On en est très loin.
Mais ce n'est pas le même public, Dominique.
C'est pas le même public, mais c'est même la comédie anglaise. C'était les studios Ealing,
oui.
Ils faisaient des films populaires. Hein. Donc là, c'est même un peu décevant. J'ai trouvé que ça traînait un peu. C'était très prévisible. Mais bien sûr, il y a Olivia Colman, bon, qui fait un rôle de composition, qui se défoule un peu dans un rôle gentiment odieux ou odieusement gentil.
Alors naturellement, vous avez vu ça en version anglaise, parce que vous êtes extrêmement pur. Moi, je l'ai vu en version française.
Ah, je sais pas ce que ça doit avoir.
Ah, mais c'était à hurler de rire. Et en plus, les voix qui doublent sont pratiquement les mêmes comédiens qui font Downton Abbey. Ou d'ailleurs jouer Olivia Colman. Donc c'était encore plus drôle. Enfin moi ça a résonné de façon très très drôle. Donc
ce qui me déçoit beaucoup, c'est que vous alliez voir des films en version doublée, Christophe.
Eh ben ça m'arrive parce que il y a de très très bons comédiens qui font du doublage aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas dans les années de votre jeunesse. Alors Marie-Noël.
Et oui, c'est décevant parce que c'est tellement British en effet.
So British, oui, mais je n'ai pas toute la palette de vocabulaire obscène en anglais.
Ah oui. Oui, oui, oui. Alors, c'est en effet un polar. Moi, j'ai beaucoup aimé le contraste entre l'image douce, le côté album, presque Martine. J'entendais parler des albums Martine, parce qu'il paraît qu'on fête les 70 ans de ces albums pour
Martine
petites
à la
filles.
Plage.
Martine. Donc il y a un côté comme ça, Martine, ou bien, pour garder une référence anglaise, un peu Gemma Arterton, comme ça, très... très douce, une image voilà, d'un petit ville, une petite ville anglaise, avec ses habitudes, ses rituels, ses fonctions, le pasteur, le médecin, le ceci, le policier, enfin, postière, tout le monde bien en place, et puis les horreurs qui sont dites extravagantes, et le contraste entre les deux femmes, alors deux merveilleuses actrices, ça c'est un régal, toutes les deux, parce que il y en a une qui est formidablement extravertie, extravagante, montrant ses fesses carrément, elle s'en prise pas, et donc qu'on soupçonne d'écrire ces lettres anonymes grossières, parce que ça lui va bien a priori, et qui riposte, mais est-ce que j'ai l'air anonyme, moi? Et est-ce que j'ai besoin d'écrire ce que je dis partout? C'est inutile. Donc son excentricité flamboyante, et elle est merveilleuse. Et à côté, en face, Olivia Colman, formidable aussi, en vraiment en punaise de sacristie, confite en dévotion et en vertu, et d'une subtilité, on la sent vraiment rancie dans ses histoires de famille, avec son vieux père, etc. Et elle est capable de faire passer ça en une expression. Quand elle se retrouve au tribunal, on la présente en disant voilà, qu'elle est l'image même de la vertu, de la piété, etc. Et là, elle boit du petit lait, puis tout à coup... et elle ne brille pas par son charme physique, par ailleurs. Et là, on la voit se rétracter, on sent toutes les frustrations et toutes les... En une mimique et en deux secondes, même pas. Elle est formidable. Donc les deux actrices sont sensationnelles.
Bernard, une très plaisante surprise. Vous avez tout le travail de reconstitution qui est distingué, très soigné, comme très souvent dans le cinéma anglais. L'interprétation, mes camarades l'ont dit, force la considération, parce que vous avez à la fois le sens des nuances, la dérision, la conviction, l'humour poivré, ici, qui irrigue tout le long métrage, qui lui apporte alacrité, irrévérence, humanité. Et puis, il y a quelque chose qui est assez fin, c'est cette relation qui est nouée entre ces deux figures de femmes, quand même, parce que ce ne sont pas, ils sont loin d'être deux adversaires. C'est une relation qui est nouée sur fond de l'être ordurière, mais vous avez aussi le portrait de la policière qui a vraiment existé, qui est loin d'être déplaisant, qui est assez fin là encore, et les rapports entretenus entre la fille docile et le père autoritaire, Timothy Spall, qu'on avait vu dans le rôle de Turner il y a quelques années, qui a d'ailleurs fondu, est-ce pour les besoins du rôle ? Bon, bref. Je regrette à titre personnel que l'identité de l'auteur des messages insultants arrive un peu tôt. Parce que contrairement à Dominique, moi je ne l'ai pas vu venir, et on aurait bien voulu que ça arrive un petit peu plus tard, dans un film comme ça, que la musique soit assez décevante, il n'y a pas un thème reconnaissable. Le film s'inscrit, ça c'est plus gênant, dans la mode d'un certain féminisme, et à cet égard, toute la gente masculine, à part le compagnon de Rose, ben, sont des pantins ridicules, aveugles, bornés, dérisoires, il suffit de voir les policiers pour s'en rendre compte. On peut s'étonner que la mort brutale de Madame Swann ne suscite pas plus de réaction chez l'auteur des lettres, on dira pas qui, mais il manque quelque chose. Et le couple composé par Rose et l'énigmatique musicien est parfait. Et en face, vous avez la famille confite, comme l'a dit Marie-Noël, en rigueur et en puritanisme. Et je suis d'accord avec Dominique, là-dessus, on est quand même dans du manichéisme. Je dirais pour conclure que sans arrêter de faire l'épître, une telle œuvre remet la correspondance sur le devant de l'obscène.
Voilà, alors maintenant nous passons en 1906, c'est juste 14 ans avant ce que nous venons de voir. Oui. Nous sommes à Paris et nous avons Rodin qui a assisté à des ballets et qui va faire 150 aquarelles sur ses ballets. Et là-dessus, on va suivre le Ballet Royal cambodgien dans toute son histoire et dans tout ce qui transporte.
On suit surtout l'histoire du Cambodge. Hein. C'est vrai, Rodin en 1906 qui découvre, c'est dit au début, puis après on s'évade.
C'est le prétexte.
Voilà, c'est le prétexte. Et après on nous raconte les 60 années de vie du Cambodge, de la visite de De Gaulle en 66 jusqu'au retour de Norodom Sihanouk en 93. C'est passionnant, c'est intéressant, il y a des choses que j'avais oubliées. On n'insiste pas beaucoup sur la trahison de Norodom Sihanouk, qui était un personnage très ambigu, puisqu'après avoir été l'adversaire des communistes, il s'est allié à eux pour sauver sa peau en 70. Hein. Et puis, bien sûr, l'horreur des Khmer Rouges et de Pol Pot après en 77. Donc tout ça défile, et dans ce défilé parfois morbide, parfois terrifiant, triste, lamentable, il y a beaucoup de témoignages, une quinzaine de témoignages, il y a la danse qui subsiste. Et ça, c'est magnifique, parce que c'est ça, c'est l'art transcende tout, Et traverse tout. Et c'est ce que nous raconte le film, ce qui est montré d'une façon assez touchante, assez impressionnante. Hein. À travers, puis il y a beaucoup de témoignages dont des danseuses qui ont souffert du régime de Pol Pot. Mmh. Et on apprend aussi ce que veulent dire ces danses et le sens des mouvements des mains qui sont censés être des fleurs. Ça, c'est magnifique. Bon, il y a des tas de choses comme ça. Les mouvements du corps qui demandent un long apprentissage. Il y a 10 ans d'apprentissage pour apprendre à danser. Voilà une sorte de pantomime millénaire qui traverse le temps pour prouver que l'art a raison du temps et de la politique, de l'horreur, de la guerre, pour imposer la sérénité de la tradition immortelle. Et c'est en sens là, c'est assez beau. C'est un beau documentaire en deux phases, finalement, qui se complètent et qui s'illustrent.
Marie-Noël.
Oui, je souscris entièrement à ce qu'a dit Dominique. Je trouve que c'est magnifique de voir ce fil d'or de la très haute culture, du grand raffinement artistique qui résiste à toutes les horreurs de l'histoire, à tous les renversements, mais qui subsiste, comme l'a dit Dominique, l'art transcende et traverse tout, mais à condition, à la seule condition qu'il y ait quelques personnes, si peu nombreuses soient-elles, pour le recueillir et le transmettre. Et c'est le cas, et on voit d'abord la princesse, fille de Norodom Sihanouk, qui a été danseuse elle-même, de ces apsaras dont parle déjà le temple d'Angkor, et qui a transmis cette culture et cette finesse extrême, et ça, c'est magnifique.
Bernard.
Oui, mais j'ai trouvé ça tout à fait réussi, d'autant que le thème pourrait être aride, et ça décrit avec beaucoup de pédagogie ce que sont notamment ces 5 gestes du cycle de la vie dans chaque chorégraphie de ce ballet cambodgien, à savoir la graine, la pousse, la feuille, la fleur et le fruit. Et ça le montre avec beaucoup d'expressivité et de clarté. Les différents témoignages qui évoquent avec autant d'émotion que de discernement les massacres perpétrés par les Khmers Rouges, ça c'est un document historique qui est extrêmement éloquent. On apprécie les anecdotes au sujet du prince Sihanouk, qui était artiste, qui était metteur en scène aussi, moi j'ignorais. Et l'anecdote concernant De Gaulle, ils ont une expression là-bas qui dit « grand comme De Gaulle ».
Oui, ils sont beaucoup plus petits.
Les visiter. La conclusion, à l'image du documentaire, associe hauteur, sérénité et gracilité. Donc on est conquis, même s'il faut quand même faire preuve d'attention, parce qu'il y a un déluge d'informations. Les 5 ans de la République, de 70 à 75, sont évoqués à bride abattue. On aurait peut-être aimé le rapprochement avec d'autres danses, justement, typiques d'autres pays, et peut-être, mais les droits sont-ils trop chers, quelques images de la déchirure pour illustrer le passage avec les Khmers Rouges et Pol Pot. Maintenant, on oscille entre grand spectacle ou histoire d'un pays. Une question se pose alors, scope ou encore ?
Oui, ben voilà.
Non, mais c'est le meilleur des films des trois.
C'est admirable.
Ouais. En fait, on a trois registres totalement différents.
C'est un documentaire, mais c'est un documentaire qui est
plutôt une bonne.
bonne cuvée cette semaine.
C'est une bonne cuvée cette semaine, tout parce que dans la peau de Blanche Houellebecq, vous avez aimé, et j'ai aimé votre commentaire, Marie-Noëlle Tranchant, parce que ça me fait réfléchir, et je me dis qu'en effet...
Finalement, c'est bon.
C'est peut-être pas idiot d'être aussi insolent. Et puis alors, le scandaleusement vôtre, moi je suis désolé, mais c'est tordant.
Et puis ça en dit beaucoup sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui.
Mais oui.
Accessoirement.
Mais oui, bien qu'on soit en 1920.
Oui.
Et les films par lettres.
Mais la grossièreté et l'anonymat et le se répandre comme ça partout. Il y a de quoi faire réfléchir.
Il y a de quoi faire réfléchir. Voilà, on me signale en cabine que le générique est en train de partir. Donc il me reste à vous remercier tous les trois. Merci Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Médioni. Demain c'est jeudi. Emmanuel Godot viendra nous parler des passeurs de l'absolu en complément des conférences de carême de Notre-Dame. Et oui, Pâques c'est dans 10 jours. Alors je vous embrasse.